RFI Actualité.
Florent Guignard.
C'est dans quelques heures ce soir, à minuit heure américaine sur la côte est des États-Unis, qu'entreront en vigueur les sanctions des États-Unis contre l'Iran. C'est la matérialisation concrète du retrait de Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien. Bonjour, David Rigoulet-Rose.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. Vous êtes aussi le rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, qui consacre justement son dernier numéro à l'Iran, à l'épreuve du réel. Alors, dites-nous d'abord très concrètement en quoi consistent ces sanctions. En fait, ce soir, ce sera une première vague. Il y en aura d'autres plus tard.
Oui, en fait, c'est la restauration en deux vagues, effectivement, de sanctions, puisqu'il y avait légalement au niveau américain, il y avait un délai de transition, 90 jours pour les premières, 180 pour les secondes. Donc, les premières sanctions, effectivement, sont applicables le 6 août. Elles concernent l'achat en dollars par la Banque centrale iranienne. Ce sont des sanctions sur l'or, les métaux précieux, les métaux bruts semi-finis, comme l'acier, l'aluminium, les logiciels. Et puis, elle touche également le secteur automobile aérien. Et d'ailleurs, on a vu que certains opérateurs aériens s'étaient dépêchés de donner les avions qui avaient été commandés par l'Iran avant la tombée de ces sanctions, parce que à partir d'aujourd'hui, les choses vont être beaucoup, beaucoup plus difficiles, effectivement, pour faire des affaires avec Téhéran.
Voilà, il y a 5 ATR, par exemple, qui ont été livrés hier en Iran. Pourquoi donc ce ne sont pas seulement les entreprises américaines qui sont frappées? Pourquoi aussi les entreprises comme des entreprises européennes vont subir les conséquences de ces sanctions? Quel est le mécanisme précis?
Alors en fait, il y a un mécanisme entre des sanctions dites primaires qui concernent spécifiquement les entreprises américaines qui n'ont pas la possibilité et qui n'ont plus la licence H d'exportation, effectivement, pour travailler avec l'Iran, mais ça c'était préexistant d'ailleurs, mais surtout ce qui pose problème aux Européens, c'est ce qu'on appelle les sanctions dites secondaires, qui ont un caractère extraterritorial et qui pénalisent a priori effectivement toute entreprise qui pourrait vouloir maintenir effectivement un certain nombre d'opérations commerciales avec l'Iran, et ça explique d'ailleurs le retrait faute d'autres solutions de grands groupes comme Total, PSA d'Iran, y compris d'autres grandes entreprises européennes qui ont décidé de surseoir notamment aériennes au vol avec Téhéran, parce qu'effectivement la question se pose de la comparaison entre le marché américain et le marché iranien. C'est sans
le choix est vite fait, c'est ça.
Le choix est vite fait, effectivement. Quand on regarde un pays comme pour l'Inde, qui va être concerné par les prochaines sanctions sur le pétrole, le commerce avec les États-Unis, c'est 115 milliards, et ça n'est que 13 milliards pour l'Iran. Donc, évidemment, même un pays comme l'Inde fait mine de ne pas se soumettre aux sanctions américaines, de toute façon, il y a un mécanisme qui est extrêmement dissuasif.
Et d'ailleurs, David Rigoulet-Rose, avant même l'entrée en vigueur des sanctions, on a déjà observé des conséquences sur l'économie iranienne ces dernières semaines, notamment la chute de la monnaie. Et puis des manifestations sociales aussi ces derniers jours.
Absolument, la société iranienne, les acteurs économiques ont anticipé d'une certaine manière la restauration effective des sanctions. Le 6 août pour les premières, le 4 novembre sur le pétrole pour les prochaines, qui sont celles qui font le plus mal, avec une dévaluation du rial, de l'ordre de 60% en quelques mois, puisqu'aujourd'hui il faut qu'il y ait quasiment 100 000 rials pour 1 dollar. Alors même que officiellement le cours est situé autour de 42 000 rials. Donc c'est dire qu'aujourd'hui les opérateurs économiques en Iran sont tétanisés par la situation, et ça alimente évidemment des manifestations qui se multiplient, qui étaient déjà apparentes en mai, notamment avec les camionneurs et d'autres dans plusieurs villes. Et puis les dernières, là notamment, il y a une école religieuse qui est tout à fait inédite, qui a été attaquée dimanche. Et donc pour la première fois, il y a la possibilité, c'est ça qui pose problème pour le régime, d'une mutation entre des revendications à caractère économico-social avec une transposition potentiellement politique.
Est-ce que dans l'esprit des États-Unis aujourd'hui, ces sanctions, c'est aussi un moyen de provoquer, pourquoi pas, une chute du régime ?
Ah, c'est incontestable. C'est pas dit de manière explicite, mais quand on regarde ceux qui entourent le président comme John Bolton, qui est un faucon parmi les faucons, Mike Pompeo qui a énoncé une douzaine de conditions léonines pour accepter de revoir la position américaine par rapport à Téhéran. Donc on voit bien qu'il y a une logique effectivement de regime change, ce qui est paradoxal parce que le président Trump avait considéré qu'il voulait se détacher de ce type de fonctionnement, mais là, en l'occurrence, dans le cas iranien, il y a manifestement effectivement une stratégie, en tout cas de déstabilisation en interne du régime iranien.
Merci David Rigolet-Rose. Je rappelle donc que vous êtes enseignant à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.